Sí.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, et remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle.
Et vous renouvelez la face de la terre.
Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, je vais aujourd'hui commencer toujours dans la série sur les actes du magistère. Donc, on se base comme d'habitude sur le texte des papes. Les textes des papes. On va commencer une nouvelle série sur la franc-maçonnerie. Bon, c'est un sujet énorme. On pourrait dire. Plutôt appeler ça les francs-maçonneries. Et en fait, si on veut aller jusqu'au fond des choses, il faut donner à la franc-maçonnerie son nom véritable. C'est pas l'histoire des francs-maçonneries, mais l'histoire des gnoses. Des gnoses. Donc la franc-maçonnerie est une gnose. Alors, je vais expliquer justement. On va expliquer ça en long, en large et en travers. Alors, je vais me suivre, je sais pas très bien comment organiser mon cours parce qu'il y a tellement de choses à faire, il faut arriver à retrouver un peu d'ordre là-dedans. Alors, le grand texte du magistère qui va nous servir de base après que les explications ont été données sur la franc-maçonnerie, c'est le texte, l'encyclique du pape Léon XIII du 20 avril 1884 qui s'appelle Humanum Genus sur la secte des francs-maçons. Bon. Je pensais d'abord étudier directement ce texte, et puis finalement, après réflexion, je vais attendre avant de l'étudier pour vous donner d'abord toutes les bases dont vous avez besoin, les bases historiques dont vous avez besoin, les bases philosophiques aussi dont vous avez besoin pour comprendre les raisons de la condamnation de la franc-maçonnerie par tous les papes finalement. Ici, c'est le texte le plus important. Alors, il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à aller chercher. Alors, que prendre comme base? J'ai pris comme base, à ma connaissance, encore une fois, je connais pas tout, mais des choses que j'ai lues, j'ai pas tout lu, loin de là, mais des choses que je connais au moins, et que je lis, et que j'ai lu, le meilleur livre que j'ai trouvé, c'est un livre qui a été édité aux éditions, aux publications du Courrier de Rome, signé Epiphanius. Il s'appelle « Maçonnerie et secte secrète, le côté caché de l'histoire ». En fait, Epiphanius, c'est un prénom. Le véritable nom de l'auteur, c'est un Italien qui s'appelle Paolo Taufer, Taufer, T-A-U-F-E-R, je ne sais pas comment on prononce en italien. Professeur Paolo Taufer, qui a signé sous le nom d'Epiphanius, et son livre date de 1998, ou au moins a été édité en 1978, je ne sais pas exactement s'il l'a écrit à ce moment-là. Alors, c'est un énorme pavé, vous voyez ici sur la caméra, un énorme pavé qui a utilisé un peu comme un dictionnaire. Il y a une biographie à la fin, pas une biographie, une bibliographie de tous les livres sur le sujet, une bibliographie essentielle de tous les livres sur le sujet et contre la maçonnerie et pour. Donc il y a tout. Alors, c'est un résumé de l'enseignement sur la franc-maçonnerie, encore une fois. Bon, ceux qui veulent étudier à fond ces sujets-là peuvent après se lancer dans les livres d'Étienne Convert ou dans d'autres livres, surtout sur la gnose. Encore une fois, on ne peut pas tout faire. Le problème aussi qu'on va vite rencontrer dans l'étude de ces sociétés-là, c'est que ces sociétés secrètes, gnose, franc-maçonnerie, tout ça sont des synonymes. Ces sociétés secrètes sont toujours existantes, sont toujours extrêmement puissantes, et donc on est bien obligé, malheureusement, surtout en France, de faire un peu attention à ce qu'on dit. Il y a toute une série de textes que je peux citer, à condition de ne pas citer le nom de l'auteur ou pas trop insister sur certains noms d'auteurs, pour ne pas faire fermer ma chaîne immédiatement, ce qui ne serait pas une solution non plus. Donc, je ne peux pas exactement faire ce que je veux. Donc, je vais utiliser un terme générique. Et puis, ceux qui sont intelligents vont en mettre ce que vous voulez sur ce terme, c'est un peu tout le monde. J'appellerai des ennemis de l'Église. Les ennemis de l'Église disent que, de point entre guillemets, ça veut dire un peu tout, toute une série de textes qui viennent de différentes personnes. Parce qu'encore une fois, je ne peux pas, en France en tout cas, il n'y a plus de liberté d'expression depuis longtemps, Macron l'a complètement supprimé actuellement, et il n'y a plus de liberté de conscience, il n'y a plus de liberté, je veux dire, liberté d'expression, on ne peut plus publier ce qu'on veut, on ne peut plus citer ce qu'on veut, donc on est obligé de faire attention. Alors il y a un livre, un autre livre qui est très intéressant, surtout dans son introduction, que je vais aussi citer au moins au début, « Les infiltrations maçonniques dans l'église » de l'abbé Barbier, Emmanuel Barbier, qui est excellent aussi. Alors, encore une fois, je ne peux pas vous faire un cours complet sur la franc-maçonnerie parce que ce serait un travail énorme, considérable. Déjà, je vais partir un petit peu de ce livre. Alors, comment est-ce que je travaille? J'ai lu ce livre il y a longtemps, mais je me suis toujours habitué à travailler de la même façon. C'est-à-dire, quand je lis un livre, j'essaie toujours d'avoir mon livre personnel parce que je fais des notes dessus et je souligne. Je lis ce livre, quand c'était un livre important, je lis ce livre, papier, crayon en main, avec une règle en main, je souligne les passages importants. Et je mets un système de codage sur le côté, simple soulignement, avec une étoile, deux étoiles ou trois étoiles, selon l'importance des choses que je suis en train de lire. Et après, ce qui fait que je vais réutiliser ce livre, tout simplement aller aux endroits que j'ai soulignés, et à partir de ça, pour vous expliquer un peu ce qu'est la franc-maçonnerie. S'il fallait définir la franc-maçonnerie ou les franc-maçonneries, je vais prendre tout simplement l'expression de Saint Pie X. Rappelez-vous ce qu'il disait au début de Pachandi, la grande encyclique de condamnation du modernisme, l'égout collecteur de toutes les hérésies. Mais c'est un peu ça. La franc-maçonnerie, c'est un égout collecteur de toutes les hérésies. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que la franc-maçonnerie est apparue comme ça d'un seul coup, comme un champignon après la pluie, en 1717. On dit que la fondation de la franc-maçonnerie, c'est 1717. Bon, c'est vrai et faux à la fois, c'est-à-dire que les documents écrits de la franc-maçonnerie datent de cette époque-là, c'est ce qu'on appelle les constitutions d'Anderson et les constitutions des Aguliers. On est en 1717. Mais en fait, on verra après, avec des textes d'Henri Coston, entre autres, que je vous citerai tout à l'heure, que la franc-maçonnerie, elle vient d'autre chose. C'est la fille du protestantisme. On verra après qu'il ne peut pas y avoir de franc-maçonnerie sans protestantisme. C'est impossible. C'est pas pour rien d'ailleurs que tous les grands groupes maçonniques sont comme par hasard tous aux États-Unis ou viennent des États-Unis, qui est la cité du protestantisme par définition. Bon, donc vous avez la franc-maçonnerie avant le protestantisme. Protestantisme, c'est 200 ans avant, 1517. Et juste avant le protestantisme, vous avez la Renaissance. Encore une fois, il ne pourrait pas y avoir de groupe maçonnique sans le protestantisme et il ne pourrait pas y avoir de groupe protestant sans la Renaissance qui a précédé. La Renaissance, c'est 14e siècle. C'est toute l'influence de Descartes, de tous ces philosophes, si vous voulez, qui ont essayé de détruire l'influence bénéfique et très salutaire de saint Thomas d'Aquin. C'est pour ça qu'on dit que le plus haut sommet de la lutte contre-révolutionnaire, de la lutte contre la révolution, c'est saint Thomas d'Aquin, qui est mort en 1274. Sitôt sa mort, c'est la Renaissance. La Renaissance va immédiatement, en quelque sorte, ouvrir toutes les fenêtres et toutes les portes qui avaient été fermées par saint Thomas d'Aquin pour protéger l'Église. Ouvrir tout ça pour faire rentrer un air nouveau dans l'Église. Cet air nouveau, ce qu'on appelle la renaissance. Bien, ce que ça veut dire, nouvelle naissance, un nouveau baptême en quelque sorte. La renaissance, c'est l'homme qui prend la place de Dieu. C'est ça la renaissance. Et donc la renaissance va préparer l'arrivée du protestantisme. Protestantisme, c'est Martin Luther, 1517. Et le protestantisme va préparer évidemment la franc-maçonnerie. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas vouloir séparer ça comme des tranches de saucisson. Il ne faut pas croire qu'il y a eu la Renaissance, puis la Renaissance s'est arrêtée, et ensuite on a eu le protestantisme, puis le protestantisme s'est arrêté, on a eu la franc-maçonnerie, puis la franc-maçonnerie s'est arrêtée, et on a eu le reste. Non, tout ça c'est lié. C'est comme un train, si vous voulez, composé de plusieurs wagons, et les wagons ils passent devant vous. Alors il y a le premier wagon est suivi par un deuxième, qui est suivi par un troisième, et il y a un lien entre tous les wagons. Donc de même que la franc-maçonnerie existe toujours, le protestantisme existe toujours, et l'esprit de la Renaissance et l'esprit des Lumières existent toujours. Vous voyez, donc c'est bien important de comprendre toutes ces choses. C'est pour ça que j'aime bien reprendre la définition de Saint Pédis, égout collecteur de toutes les hérésies. On peut reprendre aussi l'excellente définition de la Révolution de Monseigneur Gaume. Haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Donc les gnoses, les protestantismes, la franc-maçonnerie, tout ça c'est la même chose en quelque sorte. Tout ça c'est tout simplement l'homme qui se fait Dieu à la place du bon Dieu. Voilà. Alors, j'ai pas l'intention de reprendre tout ce que j'ai déjà expliqué parce que sinon je me ferai des années pour avancer un peu dans ce cours. Je considère comme connu tout ce que j'ai déjà expliqué sur la Révolution. Donc ceux qui sont un petit peu en retard dans leurs études, sur le site dame-marie.net, vous pouvez réécouter les conférences sur la Révolution, surtout celles à partir de la lettre doctrinale sur la Révolution en 4 pages avec la conférence qui correspond. Je pense qu'il y a un point essentiel à bien comprendre, parce que ça c'est toute la franc-maçonnerie, et c'est comprendre comment la Révolution travaille. Rappelez-vous que pour définir une chose, je vais quand même revenir sur ce point-là parce qu'il me semble essentiel, pour comprendre une chose, c'est saint Thomas d'Aquin qui parle, et c'est aussi Aristote, puisqu'il a appris ça chez Aristote, il faut définir les choses par 4 causes. Donc, pour expliquer la Révolution, expliquer la franc-maçonnerie, il faut connaître les 4 causes de la Révolution. Si vous connaissez les 4 causes de la Révolution, vous connaîtrez les 4 causes de la franc-maçonnerie parce que ce sont les mêmes. Si vous connaissez les 4 causes de la Révolution, vous connaîtrez les 4 causes du protestantisme, parce que ce sont les mêmes. Et si vous connaissez les 4 causes de la Révolution, vous connaîtrez aussi les 4 causes de la Renaissance, parce que ce sont les mêmes. Bon. D'abord, la cause finale. La cause finale, c'est le but. Où on va comme ça? Où va le train? Où vont les rails? La cause finale de la Révolution, c'est la damnation des hommes, des âmes. Mettre les âmes en enfer. Révolution. Le contraire de la révolution, c'est le message de la révélation. Révélation, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Révolution, c'est l'homme. Donc la révolution, la cause finale de la révolution, c'est la damnation universelle. Le démon qui va tirer les ficelles pour amener le plus d'âmes possible en enfer, puisqu'il a perdu, il a perdu le ciel, qu'il est en enfer, et qu'il ne veut surtout pas que les hommes qui ont été créés par Dieu après lui puisse aller prendre sa place au ciel. Donc, ça c'est la première cause. Deuxième cause qui dépend de la première, ce qu'on appelle la cause efficiente. La cause efficiente, c'est qui tire les ficelles. Il est évident que si la cause finale de la révolution, c'est la damnation universelle, la cause efficiente de la révolution sera le démon. Alors, on fait une distinction qui est très importante dans cette étude de la maçonnerie. Il faut distinguer 2 causes efficientes. La cause efficiente principale, qui va utiliser des instruments qu'on appelle la cause efficiente instrumentale. Donc, il y a une cause efficiente principale et 2 causes efficientes instrumentales. La cause efficiente principale de la révolution, c'est le démon. Cause efficiente instrumentale, ce sont tous ceux qui sont utilisés par le démon pour faire son boulot. Le démon, si vous voulez, c'est le cerveau. Il va utiliser toute une série de petites mains un peu partout, qui vont travailler à droite et à gauche. On a vu ça déjà avec le modernisme. Ça marche avec la Renaissance, ça marche avec le protestantisme, ça marche avec les gnoses, ça marche avec les francs-maçonneries. Donc, la cause la cause efficiente secondaire de la révolution, ou instrumentale, c'est pareil. La cause efficiente instrumentale de la révolution, justement ici, ça on peut dire, ce sont les maçonneries, les sectes secrètes. Les sectes secrètes, appelez ça comme vous voulez, sectes secrètes, maçonnerie, gnose, protestantisme, tout ça c'est pareil. Pour ça que Dieu seul sait combien il y a de groupes de francs-maçons, mais Dieu seul sait aussi combien il y a de groupes de protestants, c'est pareil. D'accord ? Alors, ça c'est fondamental à comprendre. Donc, la franc-maçonnerie est une branche, si vous voulez, du grand processus de destruction des âmes. Alors, le troisième point est le plus important. C'est-à-dire, comment est-ce que la révolution a-t-elle travaillé ? Ce qu'on appelle la cause formelle. La cause formelle de la révolution, et c'est là où le bas blesse, parce que beaucoup de nos fidèles ont un mal fou avec cette cause formelle. La cause formelle, c'est l'esprit démocrate. C'est la démocratie. Liberté, égalité, fraternité. Toutes les gnoses, tous les protestantismes, toutes les maçonneries ont toutes ce point commun. Elles sont toutes démocratiques. C'est-à-dire le pouvoir du nombre. La démocratie n'est pas, mettez-vous bien ça dans la tête, j'ai déjà expliqué ça je ne sais pas combien de fois, la démocratie n'est pas le pouvoir du peuple, ça c'est une grande fumisterie que de dire ça, la démocratie c'est le pouvoir du nombre, c'est le nombre qui fait la vérité. Comme le nombre change tout le temps, la vérité change tout le temps, donc elle n'existe pas, c'est tout simple. Enfin, dernière cause, la cause matérielle, c'est avec quoi la révolution travaille-t-elle ? La révolution a toujours travaillé de la même façon. La révolution a travaillé avec l'ignorance, l'orgueil et l'amour des nouveautés. C'était valable déjà au temps de la Renaissance, parce que la Renaissance c'est ça, c'était valable avec le protestantisme, avec la franc-maçonnerie, avec toutes les révolutions qu'on suivit. Donc encore une fois, il ne faut pas penser que la révolution, la franc-maçonnerie est quelque chose de fixe dans le temps, c'est 1517. Non, parce que la franc-maçonnerie va avoir une influence considérable sur la révolution de 1789. S'il n'y avait pas eu la franc-maçonnerie avant, il n'y aurait pas eu la révolution de 1789.
Aux États-Unis.
Bon, entre autres, aux États-Unis c'est même avant, parce que les États-Unis c'est 1776. 1789 c'est la France. Et ça, ça va entraîner l'éclatement, la destruction de l'autel catholique et de tous les trônes catholiques. C'était le but de la franc-maçonnerie. Le but de la franc-maçonnerie, c'est l'éradication du christianisme de la face de la terre. Cette phrase, elle n'est pas de moi. Elle est d'un des chefs de la franc-maçonnerie. Le but, c'était Elena Blavatsky qui disait ça, l'éradication du christianisme de la face de la terre. Autre façon d'expliquer les choses, la femme qui a succédé à Elena Blavatsky, à la tête de la société théosophique, s'appelait Annie Besant, disait « On va rendre le monde tellement invivable pour Dieu que celui-ci écœuré s'en aille. » C'est exactement ça aussi. Et vous voyez, il faut faire très attention. Le système maçonnique, c'est pas quelque chose de fixe dans le temps, c'est un système. C'est un système qui va se perdurer dans le temps, c'est un espèce de caméléon, si vous voulez. Un caméléon qui va changer de couleur avec le temps dans lequel il vit. Et donc, il ne faut pas imaginer que la franc-maçonnerie est quelque chose pour un temps déterminé. C'est une façon de penser, une façon de voir les choses pour remplacer Dieu par l'homme, tout simplement. D'accord ?
Infiltrer les institutions.
Et comment ? Bien sûr, c'est ça. Alors, on peut définir aussi la franc-maçonnerie ou les francs-maçonneries comme l'anti-règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux combats. Le combat du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est tout le combat de l'Église catholique pendant 20 siècles, mettre notre Seigneur Jésus-Christ comme roi de la société, comme roi créateur, parce qu'il est par nature, et comme roi rédempteur, pas droit de conquête. Ça c'est le travail de l'Église catholique pendant 20 siècles jusqu'à la mort du pape XII en 1958. Et ça continue pour tous ceux qui veulent garder la foi aujourd'hui. Mettre notre Seigneur Jésus-Christ comme roi de la création. La franc-maçonnerie, c'est mettre l'homme comme roi de la création. Ouais. Donc, il faut bien comprendre tout ça. Il est très très difficile, c'est aussi la raison de la difficulté de l'étude de la franc-maçonnerie, même actuellement, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse donner vraiment un nom pour le chef de la franc-maçonnerie, comme homme. Et un chef, c'est le démon, ça tout le monde est d'accord.
qui est l'homme qui dirige la franc-maçonnerie, il est bien malin, celui qui pourrait donner un nom. À ma connaissance, ces noms n'ont jamais été donnés. On dit que Bismarck était un des chefs de la franc-maçonnerie, Pike était un des chefs de la franc-maçonnerie. Tout ça, c'est possible. En fait, c'est pour expliquer le travail de la franc-maçonnerie, il faut prendre, je pense, l'image de la pieuvre. La pieuvre qui a les tentacules de tous les côtés. Imagine une pieuvre gigantesque avec des bras partout. Partout. Alors, ça sert absolument à rien de couper un bras, parce que d'abord, il repousse. Deuxièmement, si on coupe un bras, tout le mal qui était fait par ce bras immédiatement passe sur le bras d'à côté. Et donc, ça sert absolument à rien ou pas grand-chose de couper les bras de la pieuvre maçonnique. C'est pour ça qu'on appelle, on parle de la pieuvre maçonnique. Il faut arriver à atteindre le cerveau. Le problème, c'est comme le cerveau, c'est le démon, c'est pas évident. D'accord ? Donc, encore une fois, la franc-maçonnerie, si vous voyez, n'est pas... C'est une espèce de nuée, en quelque sorte. Une autre comparaison que j'aime bien, c'est un orchestre sans chef d'orchestre apparent. Mais il est là. On ne sait pas qui c'est. Il y en a un qui dirige tout. Et on a l'impression que tout ça, ça coopère. On ne voit pas très bien comment, mais en fait, il y a un lien entre tout ça. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Alors, d'où vient, qui est à la tête? On ne peut pas donner, encore une fois, de nom de personne, à ma connaissance. En tout cas, moi, j'en suis incapable. Ce serait intéressant de voir si des grands spécialistes de la franc-maçonnerie, que je ne suis pas, mais que j'essaie de suivre, ont donné des noms. À ma connaissance, il y en a. On ne peut pas donner un nom. Parce que c'est, encore une fois, une espèce de... C'est une nébuleuse, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Une espèce de nébuleuse énorme. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez devant vous quelqu'un qui vous dit « je suis franc-maçon », vous avez un petit franc-maçon tout à fait en bas de l'échelle. Un vrai franc-maçon ne révélera jamais son appartenance à la franc-maçonnerie. Jamais, jamais, jamais. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Chaque fois que quelqu'un vous dit « je suis 30e degré de la franc-maçonnerie », c'est un tout petit gars dans la franc-maçonnerie, un petit gars sans aucune importance, parce que s'il était vraiment dans la franc-maçonnerie et vraiment un haut gradé, il ne le dirait jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, vous avez la franc-maçonnerie qui travaille. Donc, au-dessus, il y a d'autres groupes maçonniques qui dirigent. Alors, ce qu'on peut répondre, par contre, ce qu'on peut, on peut pas donner de nom à ma connaissance, mais on peut au moins donner des noms d'organisations. Donc, il y a les différents groupes maçonniques. Dans l'histoire de la franc-maçonnerie, on voit deux groupes qui sortent, si vous voulez, de façon plus apparente. Le premier, c'est la Société théosophique, qui date des années 1875, fondée par une juive américaine qui s'appelait Elena Blavatsky, d'origine russe, qui a fondé la Société théosophique. Et cette Société théosophique est elle-même contrôlée par une autre société maçonnique, et je pense que, il me semble, que les spécialistes corrects de la franc-maçonnerie vont pouvoir au moins être d'accord sur un fait, c'est qu'il y a un groupe maçonnique qui dirige à peu près tous les autres, et ce groupe, c'est une maçonnerie américaine juive qui s'appelle les Mnight Breeds. Les Mnight Breeds. Bon, ça s'écrit, c'est un nom à coucher dehors, c'est de l'hébreu, ça s'écrit B'Nai-Trema. J'ai dû rechercher parce que j'avais peur de trouver comment ça s'écrivait. Et ensuite, B'Rith-S, les Mnight Breeds, ça veut dire les fils de la veuve, en hébreu. Donc, tous les grands spécialistes de la franc-maçonnerie semblent reconnaître que cette secte maçonnique, qui est un groupe maçonnique, dirige à peu près toutes les autres. C'est pas certain. Bon, c'est une secte juive, américaine, à ma connaissance aussi, d'après ce que je sais, encore une fois, moi je connais pas tout, seuls des juifs peuvent rentrer dans cette secte. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a au-dessus des Mnight Breeds d'autres groupes qui dirige les Mnabris, c'est encore possible. Est-ce qu'on peut donner des noms? Je ne sais pas. Vous voyez, donc c'est vraiment une espèce de nébuleuse. Donc c'est, vous donnez une fourmi qui sort d'une fourmilière, vous donnez un coup de pied à la fourmilière, et il y a des millions de fourmis qui sortent de la fourmilière, c'est un peu ça. Alors, il ne faut pas oublier toutes ces choses que je viens de vous expliquer, avant de s'embarquer dans la franc-maçonnerie, dans l'étude de la franc-maçonnerie. Bon. C'est pour ça que Après réflexion, je préfère, avant d'étudier Humanum Genus, la grande encyclique de Léon XIII de 1884, je préfère essayer de commencer par éclaircir un peu le terrain, le sujet, à partir du livre d'Epiphanius. C'est comme ça qu'on va travailler. Alors, je vais utiliser, pour vous donner un peu une idée, des notes que j'avais prises il y a longtemps, quand j'avais lu le livre Les infiltrations maçonniques dans l'Église, donc j'avais souligné mon livre, et puis j'avais aussi pris des notes. J'ai trouvé ces notes, je vais vous les lire, parce que je crois que c'est un bon résumé avant d'attaquer la franc-maçonnerie elle-même. Dans le livre d'Epiphanius, il y a une préface d'un des plus grands spécialistes de la franc-maçonnerie, Henri Causton. Bon. C'est un grand spécialiste du nouvel ordre mondial, voilà, du mondialisme. Je vous lis une partie de cette préface qui, à mon avis, résume très bien les choses. Donc, Epiphanius, c'est pas n'importe qui, encore une fois, c'est professeur Paolo Toffer, je ne sais pas s'il est toujours vivant. C'est un professeur italien dont j'avais déjà entendu parler, mais que je ne connais pas. Voilà ce que dit Henri Causton, parce que ça, c'est fondamental. « J'ai toujours attaché beaucoup d'importance au côté caché des choses, dit-il. Ce qui semble être également votre préoccupation essentielle. » Il parle à Epiphanius, donc celui qui a écrit ce livre, c'est une préface. « Trop de nos contemporains, écoutez bien, trop de nos contemporains croient encore que ce qui se passe au devant de la scène suffit à les informer pleinement. » Et on voit les choses, et on ne se rend pas compte que ces choses qui bougent, bougent parce qu'il y a au-dessus quelqu'un qui fait bouger ces choses. On peut, pour expliquer ce texte, tout simplement parler des marionnettes. On voit des marionnettes qui bougent, mais au-dessus, il y a un marionnettiste. Il y a un marionnettiste avec des petits fils très fins qui ne se voient pas, qui vont faire bouger la marionnette. Donc, si on s'intéresse qu'au mouvement de la marionnette, on perd un peu son temps, parce que la marionnette, c'est un pur instrument, c'est un objet qui bouge parce qu'au-dessus, il y a quelqu'un qui fait bouger la marionnette, il y a un marionnettiste. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-dessus des marionnettistes, il y a encore quelqu'un qui va diriger l'ensemble des marionnettistes pour leur dire exactement comment ils doivent faire bouger les marionnettes. Donc, trop de nos contemporains croient encore que ce qui se passe au devant de la scène suffit à les informer pleinement. Cette erreur est entretenue, volontairement ou non, par les médias, qui les saoulent littéralement de nouvelles sans importance, ne leur parlent jamais de ce qui se passe dans les cercles dirigeants et secrets. Rappelez-vous, ça c'est une phrase que j'ai moi-même utilisée très souvent, le démon va travailler pour remplir nos cœurs et nos âmes de choses secondaires pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses principales. C'est exactement ce que dit Henri Causton avec un meilleur français que le mien. Donc, les médias, c'est-à-dire les grands milliardaires qui contrôlent les sources d'information dans le monde moderne, par la télévision, par Internet, par les journaux, vont saouler les âmes de nouvelles sans importance pour que ces personnes qui écoutent ne se soucient jamais de savoir qui dirige dans le secret. Disraeli, je continue la préface d'Henri Causton, Disraeli qui fut un grand homme d'État britannique, disait que le monde est gouverné par de tout autres personnages que ne se l'imaginent ceux dont l'œil ne plonge pas derrière les coulisses. L'expérience nous a montré que les apparences sont souvent trompeuses et qu'il faut percer les mystères qui entourent les actes de certains groupes et de certains hommes si l'on veut découvrir leurs desseins et déjouer leur manigance. Donc, surtout avec la franc-maçonnerie, il ne faut surtout pas juger sur les extérieurs. Il faut juger sur ce qui se passe à l'intérieur. D'accord ? Allez, savoir ce qui se passe. Ceci est très très important parce que vous verrez que l'étude de la franc-maçonnerie va nous protéger aussi dans la situation actuelle de l'Église. Parce que la franc-maçonnerie a une influence absolument considérable au Vatican. Il est certain maintenant, tout le monde, tous les historiens sont d'accord, qu'il y a des loges maçonniques au Vatican. Avec la fameuse loge P2, de temps en temps les secrets sont sortis. Monseigneur Lefebvre me disait, pardon, avec raison, ce qu'on voit à Rome, toutes les horreurs qu'on entend, il nous disait, c'est la pointe de l'iceberg qui sort de l'eau. C'est tout. Sachez qu'il y a 9 dixièmes de la glace qui est cachée sous la limite de l'eau, de la mer, qu'on ne voit pas. Donc toutes les horreurs qu'on entend, et Dieu sait si on en entend de la part de Bergoglio à Rome, c'est rien du tout par rapport à tout ce qui est caché en dessous et qui se prépare. Donc est-ce que Bergoglio est au courant de tout ce qu'il y a en dessous? Même pas sûr. Parce qu'encore une fois, on verra que dans la maçonnerie, les gens qui sont en dessous sont pas au courant des connaissances des gens qui sont au-dessus. Et les gens qui sont au-dessus sont même pas au courant des connaissances qui sont encore pour ceux qui sont encore au-dessus. Vous voyez? Alors, il y a donc toute une série de personnes qui ont étudié ces systèmes. Et ici, il va, Henri Constant cite certains noms comme Bernard Fay, que j'ai connu au séminaire parce qu'il nous a donné des cours au séminaire. Jacques Bordiaux, Yann Moncombe, Jacques Poincar d'Assac, lui-même, donc Henri Constant. Donc, vous voyez, autre chose qu'il faut bien comprendre, ceux qui lisaient les maîtres de la contre-révolution, c'est-à-dire deux maîtres qui a des maîtres de la révolution, des maîtres de la contre-révolution. Les grands maîtres de la contre-révolution, vous connaissez ces noms. Parce qu'en fait, ils ont une influence énorme, et moi je les cite très souvent, c'est Monseigneur Ségur, Monseigneur Gaume, Monseigneur Join, Monseigneur de Lassus, l'abbé Barbier, Louis Veuillot, tous ces grands, grands catholiques, surtout de la deuxième partie du 19e, toute première partie du 20e, qui ont fait un travail énorme. Voilà ce que dit Henri Constant. Ceux qui lisaient les maîtres de la contre-révolution dans les années 1900-1930, étaient principalement des catholiques éduqués, formés par des adversaires déterminés de cette démocratie chrétienne héritée de Marc Sanglier et du Sillon. Ça, j'ai déjà fait toute une étude là-dessus, sur l'encyclique Notre Charge Apostolique contre le Sillon de Saint-Pédis, dont les successeurs aujourd'hui pactisent ouvertement avec la maçonnerie. Oui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces mouvements, on en a déjà étudié, on a étudié surtout deux mouvements essentiels dans les cours que je vous ai donnés jusqu'à présent, à savoir le modernisme avec Pascendi de 1907 de Saint-Pédis, et on avait étudié avant le Sillon de Marc Sanglier avec la grande condamnation contre le Sillon de Saint-Pédis de 1910, Notre Charge Apostolique. C'est exactement l'influence maçonnique dans l'Église, parce que Marc Sanglier se disait catholique. Les prêtres qui travaillaient en sous-main dans les sous-bassements de l'Église catholique se disaient tous catholiques. Donc la franc-maçonnerie, ça il faut bien comprendre, a une influence considérable dans la destruction, si vous voulez, des fondations même de l'Église. Et tout ce qu'on voit maintenant à Rome, c'est tout simplement certain côté le triomphe de la maçonnerie. Encore donc il cite aussi d'autres noms, Monseigneur Join, Copain Albancelli, Claudio Janet, Deschamps, etc. Il y a toute une série de gens qui ont bien étudié tout ça, et tout ça est résumé dans ce livre d'Epiphanius. Donc je vous dis aussi l'avertissement. Avant de commencer après les textes plus directs sur la franc-maçonnerie. Dans la lecture des pages qui vont suivre, l'avertissement est très court mais à mon avis fondamental, dans la lecture des pages qui vont suivre, que le lecteur garde bien présent à l'esprit, qu'il n'est pas d'idée plus étrangère au catholicisme que celle de racisme. Voilà ce que dit Saint Paul. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous ne formez qu'une personne en Jésus-Christ. Et vous êtes au Christ, vous êtes donc descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates, chapitre 3, versets 28 et 29. Il est donc indéniable que la révolution s'est servie et qu'elle se sert à l'occasion de manière particulière de certains peuples, de certains groupes politiques, de la même façon qu'il est indéniable que la maçonnerie a son siège depuis plus de deux siècles en Angleterre. C'est pas pour rien que la franc-maçonnerie, historiquement, a commencé à faire du mal à partir de l'Angleterre, puis exporté aux États-Unis à partir des États-Unis. Que la France, avec Napoléon, a exporté la révolution dans toute l'Europe, en semant des loges dans les territoires occupés. Qu'en Italie, le Piémont a joué un rôle fondamental dans la destruction de l'ordre ancien. Sans parler du rôle très important de l'humanisme italien, au début de la révolution anthropocentrique, on ne peut contester que ce même humanisme ou renaissance, c'est pareil,
que ce même humanisme plonge ses racines dans le judaïsme talmudique ou encore que les centrales mondialistes actuelles ont presque toutes leur siège aux États-Unis. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué sur cette franc-maçonnerie juive qui s'appelle les Nightbridge. Ces éléments, disent Epiphanius, ne peuvent être passés sous silence par quiconque veut sérieusement écrire l'histoire ou écrire sur l'histoire. Oui. Donc il faut bien connaître ces choses-là, sinon on perd son temps. Alors, je vais vous citer certains textes que j'ai retrouvés dans Barbier. Emmanuel Barbier est un très grand auteur. Il a fait des livres extraordinaires, justement. Il a beaucoup étudié, il n'était pas évêque, ni même prélat, il était un simple prêtre. Il était, si mes souvenirs sont exacts, surveillant dans un lycée jésuite, Saint-Jésuite. Donc il a eu du temps, et il a énormément étudié, et écrit des livres absolument fondamentaux. C'est lui qui a écrit, entre autres, un livre fondamental, un énorme pavé de 5 ou 6 gros volumes, l'histoire du catholicisme libéral depuis les débuts, si vous voulez, jusqu'à la mort de Saint-Pédis, peu de choses près. Donc, l'abbé Barbier a écrit un livre qui s'appelle « Les infiltrations maçonniques dans l'Église ». C'est une introduction, et l'introduction est excellente. Après, c'est une étude très complète, un peu trop même à mon goût, détaillée des différentes gnoses. Bon, donc là, ça dépasse un peu le cadre de ce cours, parce que je ne veux pas vous donner un cours d'histoire sur les gnoses, parce que là, on n'en sort plus, puis je laisse ça à des spécialistes. Moi, je ne suis pas un spécialiste. J'essaye de vous donner, faire comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie et pourquoi l'Église catholique l'a conseillé. Voilà le texte. Vous allez voir, c'est ahurissant, c'est des textes connus. Cité par l'abbé Verbier. Quand on tient, voilà ce que dit l'abbé Verbier, quand on tient fermement, fortement les deux bouts de la chaîne, dirons-nous en modifiant une parole célèbre, il faut bien se garder de les lâcher par le motif qu'on ne voit pas comment les anneaux se soudent entre eux. La franc-maçonnerie a formé l'infernal dessein de corrompre insensiblement les membres de l'Église, ceux-mêmes du clergé et de la hiérarchie, en leur inoculant sous des formes spécieuses et en apparence inoffensives, les faux principes avec lesquels elle se promet de bouleverser le monde chrétien. Voici le premier de ces deux faits et l'un des bouts de la chaîne. D'autre part, l'observateur, tant soit peu attentif, ne peut s'empêcher de constater que les dogmes sociaux sur lesquels nombre de catholiques et de prêtres fondent aujourd'hui la rénovation du christianisme ont une formule identique à celle de la franc-maçonnerie que la franc-maçonnerie se proposait d'en faire accepter et que les procédés dont ils usent pour déterminer entraîner l'Église à cette transformation sont identiquement ceux dont la maçonnerie avait arrêté l'emploi. Voilà le second fait et l'autre bout de la chaîne. Vous voyez donc, on voit très bien ici, donc, bouleversement total de tout l'ordre chrétien, du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça l'ordre chrétien, pour introduire des idées nouvelles qu'on appelle les idées des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est tout le siècle de la Révolution française, 1789. C'était tout le travail fait par les encyclopédistes qui vont travailler sur surtout le clergé, notamment le haut clergé, et une partie du bas clergé aussi, mais surtout le haut clergé, pour arriver à faire rentrer dans l'Église des idées nouvelles. Dès lors, la connexion entre ces deux faits, dit l'abbé Barbier, ne peut être l'objet d'un doute. Il y a réellement des infiltrations maçonniques dans l'Église, ce qu'on appelle le complot maçonnique. Nous sommes en présence d'un complot tramé avec une habileté satanique et poursuivi selon une méthode également prudente et savante, réglée par les calculs d'une haine aussi froide que féroce. Le triomphe de cette méthode est de nous faire illusion. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes, ça c'est l'abbé Barbier qui parle, dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. Un consensus artificiel, un consensus fabriqué, mais qui semble spontané, qui impressionne fortement. On a l'impression que c'est spontané, en fait c'est très très bien organisé. Bon. C'est comme, reprendre l'exemple que je vous ai donné, un orchestre, on a l'impression qu'il n'y a pas de chef d'orchestre, on admire la façon dont tous les instruments jouent ensemble. En fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui dirige. Mais on ne voit pas comment chaque instrument est lié aux autres. Alors, c'est au cœur et à la tête de l'Église que vit ce gouvernement occulte. Et là, Barbier va citer des textes extrêmement importants qui ont été publiés par le pape Pie IX. Le pape Pie IX avait récupéré les textes fondamentaux de la franc-maçonnerie. Puisque ça, c'est des textes qui datent de 3 avril 1844, parce que il y avait un agent franc-maçon qui transportait des messages maçonniques d'une haute vente à une autre haute vente, c'est-à-dire d'un cabinet maçonnique à un autre groupe de franc-maçons haut placé, et qui a été foudroyé dans une forêt, en traversant la forêt à cheval. Bon. Il avait une sacoche avec lui, la police a récupéré ses papiers. Devant l'importance de ces papiers ont été transmis à Pie IX, grand-pape Pie IX. C'est le pape de l'Immaculée Conception, c'est le pape de l'infaillibilité pontificale, c'est un des plus grands papes de l'Église. Devant l'importance de ces documents, Pie IX les a publiés. Bon, par charité, il a enlevé les noms. Parce qu'il y avait des noms de grandes familles romaines qui étaient indiqués dans ces papiers. Les grandes familles romaines qui étaient imbriquées jusqu'au cou dans les mouvements maçonniques. Il a enlevé les noms par charité pour ces grandes familles. Bon. Et voilà ce que disaient les francs-maçons. Ces textes sont connus. Donc c'est Pie IX qui les a fait publier. Ce que nous devons demander avant tout, disaient ces instructions secrètes, ce que nous devons chercher et attendre comme les juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. Bon. Après 3 avril 1844, on a chargé nos épaules de francs-maçons d'un lourd fardeau. Nous devons arriver par des petits moyens bien gradués, quoique assez mal définis, au triomphe de la Révolution par un pape. La franc-maçonnerie qui dit en 1844, nous devons arriver petit à petit au triomphe de la Révolution par un pape, parce que tant qu'on n'a pas un pape qui a pris les idées de la Révolution, on n'arrivera pas à détruire l'Église. Le pape, disent les textes maçonniques, quels qu'ils soient, ne viendra jamais aux sociétés secrètes. C'est aux sociétés secrètes à faire le premier pas vers l'Église, afin de les vaincre tous les deux. Le pape et l'Église. Le travail que nous allons entreprendre n'est l'œuvre ni d'un jour, ni d'un siècle peut-être. Mais dans nos rangs, le soldat meurt et le combat continue. Nous n'entendons pas gagner des papes à notre cause et en faire des néophytes de nos principes, des propagateurs de nos idées. À cette époque, ce serait, disaient les francs-maçons de l'époque, un rêve ridicule. 1844, aujourd'hui, c'est plus du tout un rêve ridicule, malheureusement. Ce serait un rêve ridicule, et de quelque manière que tournent les événements, que des cardinaux ou des prélats, par exemple, soient entrés de plein gré ou par surprise dans une partie de nos secrets, ce n'est pas du tout un motif pour désirer leur élévation au siège de pierre. Cette élévation nous perdrait. L'ambition seule les aurait conduits à l'apostasie, le besoin du pouvoir les forcerait à nous immoler. Or, donc, pour nous assurer un pape dans des proportions exigées, ça c'est les francs-maçons qui parlent, il s'agit d'abord de lui façonner une génération digne du règne que nous rêvons. Laisser de côté la vieillesse et l'âge mûr, aller à la jeunesse, et si c'est possible, jusqu'à l'enfance. Regardez ce qui se passe dans les écoles. C'est à la jeunesse qu'il faut aller, elle que nous devons entraîner sans qu'elle s'en doute sous le chapeau des sociétés secrètes. Pour avancer à pas compter dans cette voie périlleuse, mais sûre, deux choses sont nécessaires de toute nécessité. Vous devez avoir l'air simple, comme des colombes, mais vous serez prudent comme le serpent. N'ayez jamais devant elle un seul mot d'impiété ou d'impureté. Une fois votre réputation établie dans les collèges, dans les gymnases, dans les universités, dans les séminaires, une fois que vous aurez capté la confiance des professeurs et des étudiants, faites que ceux qui principalement s'engagent dans la milice cléricale aiment à rechercher vos entretiens. Cette réputation donnera accès à nos doctrines au sein du jeune clergé, comme au fond des couvents. Dans quelques années, ce jeune clergé aura, par la force des choses, envahi toutes les fonctions dans l'Église. Il gouvernera, il administrera, il jugera, il formera le conseil du souverain. Il sera appelé à choisir le pontife qui doit régner, et ce pontife, comme la plupart de ses contemporains, sera nécessairement plus ou moins imbu des principes italiens et humanitaires que nous allons commencer à mettre en circulation. Que le clergé marche sous votre étendard en croyant toujours marcher sous la bannière des clés apostoliques. Tendez vos filets comme Simon Barjona, tendez-les au fond des sacristies, des séminaires et des couvents, plutôt qu'au fond de la mer. Et si vous ne précipitez rien, nous vous promettons une pêche plus miraculeuse que la sienne. Vous avez pêché une révolution en tiare et en chape, marchant avec la croix et la bannière, une révolution qui n'aura besoin que d'être un tout petit peu aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. Pour propager la lumière, il a été jugé bon et utile de donner le branle à tout ce qui aspire à remuer. Je vous assure que si les catholiques connaissaient un peu ces textes, ils feraient un peu attention à ce qu'ils font. Ça, c'est écrit, certes, une partie du texte c'est 1822, l'autre c'est 1844. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait pratiquement 200 ans. À l'époque, on aurait pu se dire, mais c'est pas possible, pas possible qu'une chose pareille puisse arriver. Regardez ce qui se passe actuellement. Et là, ce qui se passe actuellement, tendez vos filets, nous vous promettons une pêche plus miraculeuse que la sienne, c'est exactement ce qui se passe. Parce que les enseignements actuels de Bergoglio à Rome, c'est exactement les enseignements de la philosophie des Lumières.
C'est arrivé en 4 ou 5 générations.
Mais exactement. Il faut, donc, quand je continue ce texte, qui est cité par Barbier, il faut transmettre et faire passer de proche en proche, il faut glisser adroitement dans les esprits les germes de nos dogmes. Ces dogmes, quels sont-ils? Le fond en est clairement expliqué par ce mot d'un membre de la Haute Vente. Haute Vente, c'est un groupe maçonnique, qui explique comment il peut se faire que de nombreux laïcs et prêtres se laissent séduire par l'égalitarisme et l'humanitarisme de la franc-maçonnerie. Écoutez bien. La clé du succès pour les francs-maçons, c'est persuader ses membres du clergé que le christianisme est une doctrine essentiellement démocratique. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de ce cours, que la cause formelle de la révolution, c'est l'esprit démocratique de liberté, égalité, fraternité. Donc le christianisme est une doctrine essentiellement démocratique. On peut dire sans exagération que les idées démocratiques et les idées maçonniques sont deux termes équivalents, et que la première de ces formules renferme, développe souvent à l'insu de ceux qui s'en servent, tout l'esprit de l'autre qui consiste d'un mot dans l'affranchissement du surnaturel dans un absolu naturalisme. Ces textes-là, il faudrait les lire à genoux. Hein. Si le gars qui a compris ça, d'un seul coup, ça éclaire tout ce qui se passe actuellement. Vatican II, c'est quoi? C'est ça. L'esprit de Vatican II, c'est l'esprit de la Révolution, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie, c'est l'esprit d'Agnon, c'est l'esprit du protestantisme. C'est pas pour rien qu'il y avait des protestants, des pasteurs protestants, qui étaient comme auditeurs au Concile Vatican II. C'est pas pour rien qu'en 1969, lorsque la nouvelle messe a été concoctée par Paul VI, il y avait des protestants, de Thésée entre autres, qui étaient là pour être sûr que le dégât était fait correctement.
Et les juifs qui se félicitait de l'élection de Jean-Marie.
Voilà, tout ça c'est important. Il faut bien comprendre ces textes. C'est ça qu'il faut aller citer ces textes, parce que même actuellement, je ne pense pas que le gouvernement puisse faire quelque chose quand on cite des textes comme ça, parce que c'est des textes qui sont très anciens, enfin très anciens, relativement anciens, donc 1822, 1844. Mais c'est exactement ça, vous voyez. Donc les idées démocratiques et les idées maçonniques sont des termes équivalents qui vont entraîner l'affranchissement du surnaturel dans un absolu naturalisme. Dieu qui est enlevé de la société et qui est remplacé par l'homme. L'homme remplace la société. Donc, au lieu de la devise catholique, pauvreté, chasteté, obéissance, on fait intervenir la devise maçonnique, liberté, égalité, fraternité. Et la devise liberté, égalité, fraternité, ça c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est tellement puissante qu'elle a réussi à imposer cette devise liberté, égalité, fraternité sur le fronton de toutes nos mairies en France. Je ne pense pas qu'il y ait une seule mairie en France où ils ne soient pas marqués liberté, égalité, fraternité. Bon. La liberté, l'égalité, la fraternité révolutionnaire, c'est le moyen, par définition, de faire avancer la révolution, puisque c'est la cause formelle de la révolution.
L'esprit démocratique, cause formelle de la révolution, c'est l'esprit de liberté, égalité et fraternité. Liberté, je fais ce que je veux. Licence totale. Donc je suis petit garçon, je veux devenir petite fille, il est libre. Je veux changer mon corps de façon à m'estropier à vie, parce que j'ai des idées sur le sujet, eh bien j'ai le droit de le faire. Je veux tuer mon garçon, mon enfant par avortement, je peux le faire. On est libre de faire ce qu'on veut. Bon. Égalité, pas de supérieur, pas de loi, chacun en fait qu'à sa tête. Fraternité, on est tous frères, donc on a, sans avoir un père commun, on est tous frères. Oui. Évidemment, contre ça, qu'est-ce qu'il y a? Mais contre ça, c'est la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. C'est contre la liberté. Qu'est-ce qu'il faut contre la liberté? Ça aussi, c'est fondamental à comprendre. Quand votre enfant de 10 ans commence à dire à son père, je veux être libre, qu'est-ce qu'il faut répondre? Obéissance. Le mot, c'est obéissance. Tu obéis. Ah ben, je suis libre. Non, t'es pas libre, tu obéis. Parce que ici, dans la maison, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux, parce que t'as un chef au-dessus. Le chef, c'est le père de famille. Et donc, tu vas obéir pour apprendre un jour à toi-même donner des ordres. Et si tu n'apprends pas à obéir, tu seras incapable de donner des ordres. Au lieu d'égalité, qu'est-ce qu'il faut donner comme, quelle est la vertu qui va s'opposer à la fausse égalité révolutionnaire?
L'humilité.
Hein? Non. La vertu qui s'oppose à l'égalité, c'est la justice. Oui. Que la justice rend à chacun ce qui est dû. C'est la définition de la justice. La justice, la vertu cardinale de justice, c'est la vertu qui rend à chacun ce qui est dû. Donc c'est la vertu qui va s'opposer à la l'égalité. Et puis enfin, contre la fausse fraternité révolutionnaire, c'est la charité. La vraie charité, l'amour de Dieu. Donc contre liberté, égalité et fraternité, il faut enseigner aux enfants et aux grands-enfants que nous sommes, il faut l'obéissance, il faut la justice et il faut la charité. D'accord ? Alors, je finis avec ces notes que j'avais prises dans le livre de l'abbé Barbier, parce que j'ai trouvé que c'était un bon résumé de la puissance de la franc-maçonnerie. On ne comprend pas aujourd'hui la puissance de la franc-maçonnerie. On le voit actuellement à Rome. Quand vous entendez les discours de Bergoglio à Rome, de François à Rome, ce sont des discours maçonniques. Ils parlent tout le temps de ça. Les gens qui viennent me voir, qui me parlent des horreurs qu'il y a dans les églises modernes, ils nous disent ça tout le temps, ils disent même sur la baie dans les églises modernes, ils ne parlent que de ça, liberté, égalité, fraternité, les migrants, le réchauffement climatique, et tous ces machins-là, on n'entend plus un seul mot sur la nécessité de sortir du péché, la nécessité de se confesser, la nécessité de communier, la nécessité d'utiliser les sacrements, le rappel des commandements de Dieu. Et on finit tout ça en disant, faites ce que vous voulez, aimez le bon Dieu.
Dieu vous aime.
Dieu vous aime, vous l'aimez. Et on n'explique même pas, c'est ce qu'ils me disent, ils me disent, il n'y a pas un seul prêtre qui nous explique que pour aimer Dieu, vous commencez par suivre sa loi. On ne peut pas prétendre aimer Dieu sans suivre la loi du bon Dieu. Le bon Dieu nous donne une loi et nous dit, parce que vous m'aimez, il faut suivre ma loi. La loi du bon Dieu, c'est quoi? La loi du bon Dieu, c'est les 10 commandements. Donc de dire aux gens, vous devez aimer Dieu, et pour aimer Dieu, vous faites ce que vous voulez, c'est une contradiction totale. Parce que la première façon d'aimer Dieu, c'est suivre ses commandements. Celui qui prétend aimer Dieu, dit Saint Jean, et qui n'obéit pas à sa conscience commandement est un menteur. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, nous dit notre Seigneur, celui qui écoute la loi de Dieu et qui la met en pratique. D'accord ? Alors, continuons avec ce texte. Il y a un principe fondamental commun à toutes ces sectes et sur lequel toutes les théories, leurs théories reposent, c'est l'ésotérisme. C'est-à-dire l'existence d'une tradition secrète, c'est là où on touche à la gnose. Vous allez voir. C'est-à-dire l'existence d'une tradition secrète, la conservation d'un enseignement réservé aux seuls initiés. Maman, vous me posiez la question de savoir ce que c'est que la gnose, c'est ça la gnose. Un enseignement secret, la gnose, c'est très très ancien. Les premiers gnostiques, c'est fin du 3e siècle. Il y en a eu avant. Avec Valentin, avec les premiers gnostiques, 9e siècle, et qui disait ce que racontent aujourd'hui les modernistes, que Dieu n'a pas tout révélé aux apôtres, qu'il y a une science cachée qui ne révèle
qu'à certains initiés, ce qu'on appelait la gnose, qui se serait perpétuée depuis l'Antiquité à travers les âges, que Jésus-Christ lui-même aurait recueilli et communiqué à quelques-uns de ses disciples pour être gardé avec le même soin au sein du christianisme et qui, défiguré ou trahi par l'Église, aurait été finalement recueilli par les sectes occultes dont la chaîne ininterrompue se rattacherait aux origines même du christianisme. C'est ça la gnose. La gnose est donc une société maçonnique très ancienne qui prétend sauvegarder les origines même du naturalisme. Donc vous voyez très bien que le grand ennemi de la gnose, c'est la grâce.
Et avant même notre Seigneur
oui, pour eux, notre Seigneur Jésus-Christ est simplement un des transmetteurs. Une personne qui a reçu des anciennes religions, c'est pour ça que les gnostiques parlaient beaucoup des anciennes religions d'avant notre Seigneur Jésus-Christ, comme les religions égyptiennes, par exemple, toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est fondamental. Donc, ces origines se trouveraient donc avoir hérité de la mission de l'Église. Donc, pour eux, l'Église a failli avec Saint-Pierre, avec l'organisation hiérarchique d'une Église avec une autorité qui vient d'en haut. Ils ont failli, et c'est la gnose qui va transmettre la véritable mission de l'Église. Et cette mission, dit l'abbé Barbier, cette mission est identiquement celle de la franc-maçonnerie. Leur thème commun, c'est une explication du monde permettant d'écarter le dogme de la création et conduisant à la divinisation de l'homme. L'homme devient Dieu pour remplacer Dieu. De là, le panthéisme émanatiste qui se retrouve au fond de presque tous les systèmes. Qu'est-ce que c'est que ce panthéisme ? Panthéisme, c'est une gnose aussi. Panthéisme, c'est l'existence de Dieu, de deux dieux, un dieu bon, un dieu mauvais. Bon, on est tout près d'Albi ici. À Albi, il y a eu les Albigeois. Les Albigeois, c'était des manichéens. D'accord ? C'était des manichéens. Et c'était des panthéistes, le manichéisme, le panthéisme, c'est un peu des synonymes tout ça. Si vous voulez, c'est le panthéisme qui va donner le manichéisme. Le panthéisme, c'est la destruction de la création de Dieu, du caractère de créateur de Dieu. Donc le panthéiste dit que les créatures deviennent Dieu, et donc les créatures doivent être divinisés comme le Créateur. Donc le panthéisme, si vous voulez, c'est une monstruosité philosophique qui va détruire la relation de cause à effet entre le Créateur et la créature. Le panthéisme va donc détruire l'esprit qu'on est créature. Si nous sommes créatures de Dieu, il y a deux fois que nous sommes créés par Dieu. Bon, qu'est-ce que dit le panthéisme ? Le panthéisme dit, nous ne sommes pas créés par Dieu parce que l'homme devient Dieu. Donc l'homme se met au niveau de Dieu. Donc il n'y a plus un chef et les autres qui obéissent. Tout le monde est au même niveau. Panthéisme. Bon. Eh bien, ce panthéisme émanatiste, ce panthéisme va donner les premières gnoses. Et on va retrouver ça dans les cathares, on va retrouver ça dans le manichéisme qui va être combattu entre autres par saint Augustin, qui avait mis le pied malheureusement là-dedans pendant sa jeunesse. Il était devenu manichéen lui-même. Le manichéisme, c'est un peu ça aussi. C'est l'existence de deux dieux, le dieu du bien, le dieu du mal. Le dieu du bien, c'est l'esprit, le dieu du mal, c'est la matière, etc. Bon. Donc, la franc-maçonnerie, si vous voulez, était imprégnée de ces gnoses des débuts du siècle. Donc, parmi ces divers systèmes, dit l'abbé Barbier, il en est un qui, dans sa forme et son état actuel, réunit et combine au moins, dans les traits généraux, les doctrines de tous les autres. C'est l'occultisme. Vous voyez, donc il a parlé au début de l'ésotérisme. Là, on parle d'occultisme. En fait, c'est un synonyme. Ah, hein, c'est un peu pareil. Et tous les autres mystères du christianisme, nous les ramenons à l'état d'expression de dépendance à cette vérité générale, la divinisation humaine. C'est-à-dire, les gnoses voulaient la divinisation de l'homme. Les gnoses voulaient détruire le fait que nous soyons créés par Dieu. Parce que si l'homme est créé par Dieu,
Dieu est créateur, l'homme évidemment devient créature. Si l'homme est créature, l'homme a des
obligations.
Devoirs. Des obligations. Si Dieu est créateur, Dieu, comme créateur, a des droits. Donc on va parler immédiatement dans l'Église catholique de l'existence des droits de Dieu. Dans le monde moderne, on ne parle jamais des droits de Dieu, et on parle toujours des droits de l'homme, et ça encore, les gens qui vont encore à la Nouvelle Messe et qui commencent à arriver chez nous, nous le disent tout le temps. Je me souviens, dans les sermons modernes, ils ne parlent que des droits de l'homme. On n'entend pas un mot sur les droits de Dieu. On dirait qu'ils ont peur de prononcer la formulation « droit de Dieu ». Or, Dieu a des droits sur nous, pourquoi ? Parce qu'il est créateur. Dieu a des droits sur nous parce qu'il est rédempteur. Il a des droits sur tous les hommes. Donc, il a des droits sur tous les peuples, qu'ils soient catholiques, qu'ils ne soient pas catholiques, d'ailleurs, ça ne change rien du tout. On a tous été créés par Dieu. Et ayant tous été créés par Dieu, Dieu a des droits stricts sur chacun d'entre nous. Oui, donc il faut absolument sortir de l'esprit ces idées saugrenues qui sont maintenant rentrées dans la tête parfois de certains catholiques qui pensent que chacun va être jugé en fonction de ses convictions personnelles et que le musulman qui meurt va être jugé avec la moralité musulmane selon le Coran et selon les traditions d'Allah et de Mohammed, que le bouddhiste va être jugé par Bouddha selon les principes préceptes bouddhistes, que le païen va être jugé par je sais pas trop qui, et que le républicain va être jugé par Macron promu Dieu grand rédempteur de la République universelle. C'est tout comme ça. Toutes ces bêtises sont là. D'accord ? Alors, écoutez bien, c'est cette autre partie qui est fondamentale. La caractéristique de l'église gnostique, parce que c'est une église, plus vraiment des églises gnostiques au pluriel, est de représenter et de restituer l'ancienne église chrétienne démocratique et égalitaire. On trouve toujours le même mot, démocratie. À côté de cet enseignement populaire ou exotérique, comme disent les savants, Jésus avait un enseignement ésotérique, secret, gnostique, qu'il exposait à ses disciples dans les réunions intimes. Pour être admis dans l'assemblée des gnostiques, il faut confesser les deux dogmes fondamentaux, savoir la foi à l'émanation et le salut par la science, la gnose. Le dogme de l'émanation est opposé à celui d'un Dieu créateur, le salut par la gnose est opposé au salut par la foi. Donc le gnostique nie l'existence d'un Dieu créateur et nie l'existence d'un Dieu rédempteur. Bon. Alors on verra avec la franc-maçonnerie, c'est encore un peu plus compliqué que ça. Parce qu'il y a des francs-maçons qui croient en Dieu.
Le grand architecte.
Bon. Mais ils croient à un Dieu qui s'arrête au niveau naturel. C'est pour ça que les présidents américains, même les plus grands bandits, comme je pense à Obama par exemple, ou Biden, quand ils finissent un discours au peuple américain, ils finissent toujours de la même façon, même si ce sont des bandits, que Dieu vous bénisse et bénisse les États-Unis. Jamais j'ai entendu Macron terminer un discours en disant que Dieu vous bénisse. Mais tous les présidents américains le font, même les francs-maçons, ils ont tous francs-maçons là-dedans, un peu de choses près, ou à moi avec l'esprit maçonnique, ils disent tous que Dieu vous bénisse. Selon le Dieu dont ils parlent, c'est pas Dieu qui descend sur l'autel ici par les paroles de la consécration, c'est le grand architecte de l'univers. Ce qu'on appelle le grand architecte de l'univers. C'est un Dieu naturaliste. Il s'arrête au niveau naturel. C'est-à-dire qu'ils acceptent un Dieu qui peut être prouvé par la raison, par l'usage de notre raison, on peut prouver l'existence de Dieu. Bon, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas besoin d'être un catholique, par exemple, pour pouvoir prouver l'existence d'un Dieu qui récompense les bons et qui punit les méchants. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent être utiles et comprises, enseignées par la raison naturelle. Pourquoi ? Parce que l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Et le vrai, une partie du vrai, donc peut être atteignable même par un non-catholique, parce qu'un non-catholique a aussi une intelligence. Donc on peut prouver l'existence de l'âme, par exemple. On peut prouver l'existence d'une âme, pas besoin d'être catholique pour savoir que vous avez une âme. N'importe quelle personne qui réfléchit un petit peu sait qu'il a une âme. Vous voyez ? L'existence de l'âme, l'existence d'un Dieu qui récompense les bons et qui punit les mauvais. C'est un Dieu au niveau naturel. Donc on peut prouver l'existence de Dieu de façon naturelle. suivi par exemple de voir l'ordre de la création, les nuits qui se succèdent au jour, les saisons qui s'enchaînent les unes après les autres. Tout ça, ça prouve qu'il y a un architecte. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dirige tout ça. On ne peut pas avoir une montre qui fonctionne sans un horloger qui l'ait fabriqué. C'est la même chose. Donc, le dieu des francs-maçons, beaucoup de francs-maçons sont déistes, pas tous. Certains sont déistes ou théistes, c'est un peu le même mot, c'est un synonyme d'ailleurs. Parce que théo en grec, ça veut dire Dieu. Donc, ils sont déistes, mais pas tous. Il y en a qui sont déistes et qui acceptent des gens qui croient en Dieu dans leur secte, dans leur conciliabule maçonnique. À condition que ce soit uniquement le grand architecte de l'univers. Pas question d'accepter un Dieu en trois personnes, d'accepter l'incarnation, d'accepter la rédemption. Ça, pas question. Bon. Et pour ceux qui sont intéressés par ça, c'est ce qu'on appelle aussi des lois noachiques. Les lois noachiques, qui sont des lois d'origine juive, pour les gens qui veulent joindre la religion juive sans être de race juive, on leur impose des lois noachiques. Vous pouvez croire en Dieu, mais vous ne pouvez pas croire en un Dieu, vous pouvez croire en un Dieu rédempteur, pardon, un Dieu créateur, vous ne pouvez pas croire en un Dieu qui s'est incarné. Il refuse l'incarnation puisqu'il refuse notre Seigneur Jésus-Christ, mais il refuse, bien sûr, la rédemption par la croix. Donc, le dogme de l'émanation est opposé à celui d'un Dieu créateur. Le salut par la gnose est opposé au salut par la foi. Je vais finir ce texte parce qu'il est important. Ça donne un bon résumé, à mon avis, de ce qui va être expliqué après. Après, l'abbé Barbé cite Albert Pike. Albert Pike, c'est un grand bandit. C'est un homme d'État. J'ai vu sa photo quelque part là. J'ai ces dates. Albert Pike, 1809-1891. 33e degré, grand commandeur du rite écossais, ancien et accepté. C'est un des fondateurs, en fait, de la franc-maçonnerie anglaise. D'accord? Bon. La gnose, dit Albert Pike, est l'essence et la moelle de la franc-maçonnerie. Ça, c'est capital comme phrase. Il montre bien, parce qu'il y a des gens qui vont dire, monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire que la gnose est l'essence de la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie, c'est 1717, et les gnoses, c'est le début de l'histoire de l'Église. Donc, c'est 2e et 3e siècle. Vous voyez, il y a d'énormes différences. Mais il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y a un lien entre les deux.
C'est le terreau de la franc-maçonnerie.
C'est la gnose qui va se développer au cours des siècles, qui va former la Renaissance, qui va former la protestantisme, qui va former la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie va former ensuite la révolution américaine, 1776, la révolution française, 1789, puis la révolution en Russie, 1917, puis c'est ces mêmes idées gnostiques qui vont après rentrer dans l'Église avec Vatican II. Quel est l'esprit de Vatican II? Liberté, égalité, fraternité. Est-ce que vous voyez, on voit très bien dans les textes actuels de François à Rome, et dans tous les textes de tous les prêtres modernes, ils ne parlent que de ça, liberté, égalité, fraternité, c'est la seule chose qui les intéresse. Exactement, d'accord. La gnose, dit Albert Pike, est donc l'essence et la moelle de la franc-maçonnerie. Ce qu'il faut entendre ici par gnose, dit l'abbé Barbier, c'est la connaissance traditionnelle qui constitue le fond commun de toutes les initiations et dont les doctrines et les symboles se sont transmis depuis l'Antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours à travers les fraternités secrètes dont la longue chaîne n'a jamais été interrompue. Toute doctrine ésotérique ne peut se transmettre que par une initiation et toute initiation comprend nécessairement plusieurs phases successives auxquelles correspondent autant de grades différents. Trois grades d'apprentis, compagnons et maîtres qui correspondent à la triple mission des maçons consistant à rechercher d'abord afin de posséder ensuite et pouvoir finalement répandre la lumière. Donc la franc-maçonnerie, le nom franc-maçonnerie vient du Moyen-Âge. À ce moment-là, il y avait des maçons. Les maçons qui étaient les constructeurs des cathédrales, qui n'ont rien à voir avec les maçons d'aujourd'hui, c'est pas le même terme. Mais les francs-maçons, on les appelait les francs-maçons parce que la corporation des maçons qui travaillait pour les architectes, qui construisaient les cathédrales, était libre de certains droits. Ils avaient des exemptions de taxes, des exemptions d'impôts considérables à cause de l'importance pour la société dans laquelle ils travaillaient. Et donc on les appelait les francs-maçons libres, les maçons libres, d'où le terme franc-maçon. Donc les francs-maçons du Moyen-Âge dans les corporations maçonniques, les corporations de maçons, c'est quelque chose de parfaitement correct. La franc-maçonnerie a calqué son influence sur le système des corporations. Il y a une corporation, on ne pouvait pas devenir ouvrir son échoppe et commencer à travailler tout de suite. Il fallait commencer par le bas de l'échelle. On commençait par apprendre à tenir un balai, à balayer dans un atelier, et puis on montait les échelons petit à petit, on faisait son tour de France, on faisait son chef-d'œuvre, on était accepté, puis petit à petit on montait, jusqu'au moment où on avait le droit de commencer à pouvoir établir son métier. Bon. Et c'était du bon sens, c'était la société du bon sens, ces corporations. Et par exemple, il y avait des lois qui aujourd'hui font bondir les gens, et qui est pourtant parfaitement de bon sens élémentaire, tant que quelqu'un n'était pas et pas terminé sa formation, et ben on va se marier. Ben on va se marier parce qu'il était en formation. Il fallait qu'il attende d'avoir terminé, puis une fois qu'il était terminé, il pouvait se marier. C'était pareil avant dans l'armée, où les gens qui étaient en école de formation, sous-officiers, école d'officiers, ben on va se marier. Il fallait qu'ils attendent d'être formés. Inutile de vous dire que toutes ces lois ont complètement disparu. Bon. À la place de la création, donc ça c'est des textes, encore une fois, ce que je dis là, c'est des textes de l'abbé Barmé dans son livre « Les infiltrations maçonniques dans l'Église ».
C'est pas
Pike
qui dit ça.
Je pense pas que c'est... La phrase de Pike, c'est que... c'est la phrase « La gnose est l'essence et la moelle de la franc-maçonnerie ». J'ai pas mis les guillemets, mais je pense que ça c'est le père l'abbé Barbier qui explique. À la place de la création, la cabale juive, donc, suppose l'émanation, et voici la différence. Par la création, Dieu tire le monde du néant. Il fait quelque chose avec rien. Il faut parler avec le terre-à-terre, le plus littéral. Dans l'émanation, alors ça c'est des choses de la cabale juive, l'Enzof tire le monde de lui-même. Il n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. La cabale est depuis 20 siècles la philosophie, la théologie dogmatique des juifs. Il y a toute une cabale, ce qu'on appelle la cabale, avec C-A-2-B-A-L-E. C'est la philosophie, la théologie dogmatique de la religion juive. Le Talmud est leur code moral. Le juif est l'homme-dieu, c'est le mot même de la Kabbale. Le juif est donc le dieu vivant, dieu incarné, c'est l'homme céleste, Adam Kadmon. Bon. Alors après, c'est ça qui est très intéressant ici. J'ai trouvé une note là dans le livre de Barbier, justement, sur qui va nous permettre de rebondir sur la franc-maçonnerie. À partir d'Hélène Blavatsky. Hélène Blavatsky, c'est la fondatrice de la Société théosophique. La Société théosophique est certainement une des sociétés maçonniques les plus redoutables et les plus antichrétiennes qui ait jamais existé. Donc on est autour des années 1875. Hélène Blavatsky, alliée par sa mère aux meilleures familles de l'aristocratie russe, avait d'abord essayé de fonder en Égypte une société de spiritisme. Cette tentative ayant échoué, elle passa en Amérique. Et le 17 novembre 1875, elle établit à New York, avec quelques disciples, la première société théosophique. Et Madame Blavatsky resta jusqu'à sa mort, survenue le 8 mai 1891, l'âme de cette société. La société théosophique a eu une influence considérable aux États-Unis. C'est cette société théosophique qui, après, a donné la trilatérale et toutes ces organisations maçonniques mondialistes qui sont en train de contrôler le monde. Bon. Autre chose qu'il faut savoir, la société, c'est des exemples que j'ai pris chez l'abbé Barbier, la société théosophique aurait vraisemblablement sombré à la suite de certaines mystifications dévoilées par un membre de cette société sans l'intervention d'une autre personne qui s'appelait Annie Besant, B-E-S-A-N-T. Qui va avoir un rôle fondamental. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette Anglaise, élevée jusqu'à 15 ans dans la pratique du protestantisme évangéliste, fut mariée à un ministre anglican, le révérend Frank Besant, et finit par se laisser rebuter par le rigorisme de Pusey. Elle délaissa son église et son foyer et accepta pour vivre une place de cuisinière chez un pasteur. Sur ses entrefaites, un conférencier athée, M. Bradlow, lui demanda son concours et pendant quelques années, elle se fit avec lui le champion de l'athéisme, du malthusianisme et du matérialisme. Jusqu'à ce que, délaissée par lui, conquise et magnétisée par Hélène Blavatsky, elle s'adonna à l'occultisme, s'enivra de merveilleux, habitua son esprit aux obscurités traversées d'éclairs de la sagesse de l'Inde. Toute l'influence, on voit toutes ces influences. 2 ans lui suffirent pour passer du rôle de disciple
à celui d'initiatrice, avec sa fougue ordinaire et sa logique passionnée, insoucieuse des contradictions comme des palinodies, elle se mit à prêcher la bonne nouvelle du lotus bleu, donc le bouddhisme, fit des adeptes, multiplia les conférences, les tracts et les volumes. Elle devient ainsi très vite le chef incontesté de cette société théosophique. Bon. Telle est, avec Madame Blavatsky, la femme qui a renouvelé l'ancienne théosophie en lui donnant, il est vrai, une physionomie bien différente de celle que lui connaissait les siècles précédents. Ce qu'il faut savoir, ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que Annie Besant était une grande amie de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme. Baden-Powell était membre de la société théosophique. Ça, les gens ne veulent pas reconnaître et les scouts ne veulent pas entendre parler de ça. Parce qu'ils disent qu'on n'a pas le droit de le dire, il ne faut surtout pas le dire. Baden-Powell était membre de la société théosophique. C'est-à-dire Baden-Powell, fondateur du scoutisme, était membre d'une société dont le but était l'éradication du christianisme de la face de la terre. Après qu'on ne vienne pas me dire que le scoutisme était une gentille petite organisation, on apprend aux gens à couper des arbres avec un canif et à faire du feu à partir de deux silex. Bon, c'est fondé par un membre de la société théosophique. Et c'est Annie Besant elle-même qui a créé la branche des louveteaux. Les louveteaux, le louftisme, la branche des jeunes, le louftisme c'est 9-10 ans. Voilà. Et bien oui, mais ce que les cheftaines catholiques ne savent pas, c'est que le louftisme a été fondé par Annie Besant qui était présidente de la société théosophique, qui est une des sociétés les plus anti-catholiques de la franc-maçonnerie. Ça, il faudrait peut-être le savoir. Bon. D'où quand même un minimum de précaution. Alors vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire ça parce que le père Doncoeur et Chanoine Cornette, après, ont baptisé le scoutisme de Baden-Powell en jetant de l'eau bénite là-dessus. Ils ont fait un scoutisme catholique. Mais les principes restent là. D'accord ?
C'était complètement
naturaliste. D'accord ? Donc, la rédemption pour ces gens-là, pour les francs-maçons et pour la société théosophique, parce que tout ça, c'est lié, d'accord ? La rédemption consiste donc pour l'humanité à briser tous les joug, J-O-U-G. Donc, tous les joug, c'est-à-dire tous les liens, toutes les chaînes, se libérer. Rappelez-vous la formule de 1968, il est interdit d'interdire. Voilà. La cause de la chute de l'humanité, c'est la reconnaissance d'une autorité. Donc, les francs-maçons refusent catégoriquement toute autorité divine. Les kabbalistes.
Sauf celle de Satan.
Oui. Les kabbalistes définissent le miracle un acte supérieur aux lois et aux forces connues. Donc, sous-entendu, il y a les forces inconnues qui expliquent le miracle. Que la foi redevienne lumière et que ce ne soit plus la volonté mais la raison qui croit en nous. Quand Jésus, qui s'est fait homme, se dit la voie et la vérité, comprenez la voie vers la vérité. Dieu vit dans tout homme d'une présence morale qui est réelle. La présence du Verbe est la même dans tous les êtres raisonnables. Le degré seul varie. La mesure de cette présence dans la Christ, le Christ fut parfait. Donc Dieu demeure dans tous les hommes. Dans tous les hommes ont la grâce sanctifiante. Puisque la grâce sanctifiante, avec des systèmes pareils, la grâce sanctifiante devient naturelle pour l'homme. Ça, c'est la grande idée de Benoît XVI, la grande idée de Jean-Paul II, et la grande idée de François. La grâce sanctifiante est naturelle à l'homme. Donc tous les hommes ont la grâce sanctifiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les hommes sont unis à Dieu par la charité, la grâce sanctifiante, et qu'on ne peut pas la perdre parce que c'est une partie de notre nature. Un homme ne peut pas se balader sans avoir une âme, parce que c'est une partie de sa nature. Et donc, puisqu'il a une âme, il a la grâce sanctifiante en lui. Tous les hommes ont une âme, tous les hommes ont la grâce sanctifiante. Or, la grâce sanctifiante est nécessaire au salut. Conséquence, tout le monde est au ciel. Sauf les traditionalistes, évidemment. Bon, et ceux qui disent, Monseigneur Lefebvre. Bon. Mais c'est exactement ça. Et ça, sont les idées maçonniques.
Ben oui.
Sont les idées maçonniques. Donc, là, j'ai encore un texte de... un texte de Barbier, David Barbier, qui est intéressant. Une citation de Hello, Ernest Hello. Je crois que c'était Ernest son prénom. L'habitude de parler faiblement des choses fortes donne aux choses fortes des apparences de faiblesse. Et c'est Ernest Hello qui avait dit, aussi une citation que j'utilise souvent en sermon, vous pourrez dire et faire croire que vous êtes de la vérité, mais votre l'absence de haine de l'erreur en nous montrera que vous n'êtes pas de la vérité. À l'époque où le protestantisme envahissait les pays catholiques, Saint-Ignace de Loyola
écrivit dans le livre des exercices spirituels ses admirables règles d'orthodoxie, des règles pour sentir avec l'Église. Règles à suivre pour ne pas nous écarter des sentiments véritables que nous devons avoir dans l'Église militante. L'adaptation à notre présent état s'en ferait naturellement. Le principe en est la soumission de cœur à tout ce que l'Église de Jésus-Christ enseigne. L'attachement de cœur à tout ce qu'elle aime et approuve. La pratique consiste à défendre, à louer précisément tout ce que ses contradicteurs attaquent, à prendre parti pour chacune de ses institutions critiquées, de ses positions menacées, à nous inspirer de ses intentions, à accepter son mot d'ordre sans l'interpréter à notre fantaisie. Car il faut croire qu'entre Jésus-Christ, notre Seigneur qui est l'Époux, et l'Église qui est son épouse, il n'y a qu'un même esprit, qu'un seul même esprit qui nous gouverne et nous dirige pour le salut de nos âmes. Et que c'est par le même esprit et le même Seigneur qui donna les 10 commandements, qui est érigé et gouverné notre mère, la Sainte Église. Il faut sentir avec l'Église, sentire cum ecclesia, sentir avec l'Église. Penser tel que l'Église catholique a toujours pensé. Vous voyez, ça, tout ça, c'est un peu une introduction, mais j'ai pensé que c'était important de faire une première introduction, l'introduction finale qui va arriver après. C'est important parce que, à mon avis, ça va vous aider à comprendre quel est notre combat. Parce que dans ce travail, si vous voulez, d'étude de la franc-maçonnerie, donc, ça doit nous aider, si vous voulez, à comprendre le rôle du prêtre catholique et le rôle du catholique, tout simplement, dans le monde moderne. Parce qu'on vit dans un monde qui est complètement déboussolé. Un monde qui a perdu le nord. Et ceux qui étaient en principe chargés par Dieu de donner le bon itinéraire, d'indiquer le nom, la véritable boussole, c'était qui? Qui est la boussole de l'Église? La boussole de l'Église, c'est le pape. Le pape représente, si vous voulez, reçoit sa force, il a une boussole dans la main, qui est-ce qui lui a donné cette boussole? Le Christ. Donc le Christ, qui est Dieu, donne une boussole au pape, en disant voilà le chemin qu'il faut suivre. On suit l'aiguille qui indique le nord. Le nord, c'est le paradis. C'est ça qu'il faut suivre. Donc il faut suivre celle-là. Donc le rôle du pape, c'est quoi? C'est garder l'épaule de la foi. Garder la boussole, c'est pas lui qui l'a faite, la boussole. Il n'a pas le droit de bricoler la boussole, il n'a pas le droit de dire oui, la boussole ne me dit pas, mais moi ça ne me plaît pas, pas beaucoup de passer par là, j'ai envie de passer de l'autre côté. Non, le rôle du pape, il garde la boussole, c'est lui qui a la boussole, et le peuple derrière il suit. Les cardinaux, les évêques, les prêtres, les laïcs, tout le monde suit. Chacun à son niveau. C'est ça là, l'église catholique. Bon. Et ça a complètement disparu. Parce que dans l'église moderne, depuis la mort du pape Pie XII en 1958, et maintenant de façon évidente, alors qu'avant c'était encore caché, maintenant c'est évident, surtout depuis le Concile Vatican II, 1962-1965, et avec la nouvelle église synodale, c'est clair et net, François a même plus peur de le dire, garder la boussole donnée par le Christ, ça n'intéresse pas, parce que tout doit être nouveau, il faut des nouveautés pour tout. La dernière bêtise, entre autres, je ne sais pas si vous êtes au courant, ça date d'hier ou ce matin, il vient de nommer une femme, comme chef d'un dicastère romain, c'était toujours un cardinal. Donc c'est une femme, une bonne sœur, vous voyez les bonnes sœurs, une bonne sœur qui recyclait, c'est les pires, qui est devenue chef d'un dicastère, hein, pour les vocations. Bon, c'est gravissime tout ça.
Peut-être un trans, je ne sais rien du tout.
Mais en tout cas, je constate, c'est tout. Vous voyez, donc il faut, vous voyez, dans toute cette étude de la maçonnerie, il faut comprendre les faits qu'on a en face de nous. On n'attaque pas les personnes en tant que telles. Bon, j'ai rien contre eux. Si demain j'ai un juif qui vient me demander un bout de pain, je nourris mon juif qui me demande un bout de pain. Si demain j'ai un juif qui vient me demander l'explication sur le catéchisme et pourquoi on croit que notre Seigneur Jésus-Christ, j'essaie de lui expliquer. C'est absolument évident. Hein. Mais il faut comprendre toutes ces choses-là. Il ne faut pas croire que la franc-maçonnerie est arrivée comme ça, comme les champignons après la pluie. C'est la conséquence d'une longue progression. Une longue progression qui va arriver justement à la destruction de la foi catholique. Alors il y a d'autres textes, donc faites très attention pour ceux qui ont deviné d'où viennent ces textes, de jamais prononcer ce mot dans un cours. Sinon je ne pourrais pas mettre la conférence sur le site, parce que s'ils entendent ce mot, il me bloque immédiatement toutes les conférences.
Oui. Chut.
Le nom des auteurs, mais j'en parlerai après. Je veux pas que ça soit. Il faut faire attention aux lois françaises qui nous interdisent des tas de choses. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Voyez. Alors, je vais vous citer un texte des ennemis de l'Église. C'est très intéressant. Voilà ce qu'ils disent. Dans les temps anciens, nous clamions parmi les foules les mots de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces mots ont été répétés à satiété depuis par des perroquets inconscients qui, accourant de tous côtés vers l'appât, ont détruit la prospérité du monde et la véritable liberté individuelle autrefois si bien protégée contre les violences de la plèbe. Ils n'ont même pas pris garde que l'égalité n'existe pas dans la nature et qu'il ne peut y avoir de liberté. Dans toutes les régions du globe, les mots de liberté, d'égalité et de fraternité ont entraîné des foules énormes dans nos rangs, grâce à nos agents aveugles qui portaient notre drapeau avec enthousiasme. Ça, c'est toute la révolution. Il nous a fourni aussi, parmi d'autres avantages, un atout de premier ordre, l'abolition des privilèges. N'oubliez pas que la première chose qu'a fait la révolution de 1789, c'est l'abolition des privilèges. En d'autres termes, l'essence même de l'aristocratie. L'aristocratie qui protégeait le peuple. L'aristocratie qui était la seule protection des peuples et des patries contre la révolution. Vous voyez ? Donc c'est des textes très intéressants à étudier, à bien connaître. C'est des textes qui viennent de toute une série d'officines des différents groupes maçonniques. Tout ça, c'est les groupes maçonniques. C'est pour ça que dans les cercles de francs-maçons, on verra ça plus tard, mais dans les cercles de la maçonnerie, si vous voulez, il y a des gens de tous les azimuts. Il y a des gens qui sont des maçonneries déistes et des maçonneries très anti-déistes. Des francs-maçons qui croient en Dieu et des francs-maçons qui ne croient pas en Dieu. Et donc le franc-maçon a dit, mais moi je crois en Dieu, ça ne me gêne pas du tout. Ça va, il croit au grand architecte de l'univers. Il ne croit pas au Dieu qui s'est incarné dans un très vieux notre Seigneur Jean-Marie et qui est mort sur la croix le vendredi saint, parce que ça, c'est la surnature. Vous voyez ? Et c'est extrêmement, extrêmement important. Vous voyez, je pense qu'il faut, bien connaître ces choses, parce que une fois qu'on connaît ces choses, après c'est plus facile de se protéger. Vous voyez, ces textes, à mon avis, sont absolument, absolument fondamentaux. Donc, je reprends comme conclusion, si vous voulez,
Ils existent, monsieur l'abbé, dans vos conférences, non ? Vous les avez cités, non ?
Des quoi ?
Une partie de ces textes.
Alors, ces textes publiés par Pénum, je les ai cités dans d'autres conférences, non, mais là, j'ai repris ça parce que c'est exactement le sujet qui nous prépare. Vous voyez, je pense que le point clé, qui est, à mon avis, le point le plus difficile à faire rentrer dans l'esprit de nos fidèles, c'est cette phrase-là. Il faut dire ces instructions maçonniques, transmettre et faire passer de proche en proche. Il faut glisser adroitement dans les esprits les germes de nos dogmes. Ces dogmes, quels sont-ils ? Le fond en est clairement exprimé par ce mot d'amende de la haute vente, donc un des chefs de la franc-maçonnerie. Enfin, on était autour des années 1840. Qui explique comment il peut se faire que de nombreux laïcs et prêtres se laissent séduire par l'égalitarisme et l'humanitarisme de la maçonnerie. Ils se persuadent que le christianisme est une doctrine essentiellement démocratique. Donc le grand mensonge des francs-maçons, quand ils parlent avec des catholiques, c'est de leur faire croire que le christianisme doit devenir démocratique. Et que le christianisme avant Vatican II était un christianisme anti-démocratique. Un christianisme avec une autorité divine. Dieu a créé une église sur un système d'autorité monarchique, une monarchie absolue en fait. Une monarchie de droit divin. Bon. Et donc, le rôle de la franc-maçonnerie dans l'Église a été de faire croire aux catholiques qu'il fallait transformer cette monarchie de droit divin en une association de type démocratique. Et qu'est-ce que veut dire le mot démocratique ? Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué. Démocratique ne veut pas dire pouvoir du peuple, démocratique veut dire pouvoir du nombre. C'est-à-dire que l'autorité ne doit plus venir d'en haut, comme avant. Avant, c'était Dieu qui transmettait au pape, le pape transmettait aux cardinaux, aux évêques, aux prêtres, aux fidèles.
L'autorité venait d'en haut. C'est l'évangile. Et donc, quand on commençait à vouloir aimer le bon Dieu, première chose à faire pour pouvoir aimer le bon Dieu correctement, il fallait obéir à sa loi, parce que c'est lui qui indiquait la loi. La loi divine venait d'en haut. Bon. Maintenant, avec le processus démocratique, qu'est-ce qui se passe? C'est la base qui va déterminer ce qu'il faut croire. Ça vient plus d'en haut, ça vient d'en bas. Donc il n'est plus question, dans l'église de Vatican II, qui est une église démocratique, d'accepter une autorité qui vient d'en haut. Dieu qui arrive et qui vous donne un bloc de 10 commandements, pas question. Les commandements, c'est nous qui les faisons. Ça va passer par notre conscience personnelle. C'est nous qui allons interpréter tout ça. C'est nous qui allons garder ce qui nous plaît et pousser ce qui nous plaît pas. On garde uniquement ce qui nous plaît. Ce qui nous plaît pas, on enlève. On trouve ça dans certains milieux, même de la tradition en France, hein. Les gens qui en font qu'à leur tête en matière de liturgie. Je passe. Bon. Et c'est exactement ça le problème. Donc, là, avec l'église synodale, aujourd'hui, l'église de Vatican II, le dernier synode de l'année dernière, là, c'est exactement ça. L'esprit de monarchie absolue avec une autorité qui vient d'en haut a complètement disparu. On remplace ça par l'autorité des hommes. C'est les hommes qui vont remplacer ça. On peut dire sans exagération donc que les idées démocratiques et les idées maçonniques sont de termes équivalents et que la première de ces formules renferme, développe souvent à l'insu de ceux qui s'en servent tout l'esprit de l'autre qui consiste d'un mot dans l'affranchissement du surnaturel dans un absolu naturalisme. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'église de Vatican II. L'autorité vient d'en bas. L'autorité vient du nombre. C'est le nombre qui fait la vérité. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la Sainte Eucharistie? Si on suit une autorité divine, qu'est-ce que dit notre autorité divine? L'autorité divine enseigne, c'est un dogme de foi, la transsubstantiation, la substance du pain changée à la substance du corps du Christ. Point barre. Ça vous plaît pas? Ça vous plaît pas? C'est comme ça. Église démocratique. Qu'est-ce que vous pensez de la transsubstantiation? Est-ce que vous êtes d'accord? On va tous voter pour savoir quels sont ceux qui sont pour, quels sont ceux qui sont contre. Alors si vous êtes contre, mais c'est comme ça que ça se passe. Si vous êtes contre la transsubstantiation, ben vous n'êtes pas obligé d'accepter. Puis d'ailleurs, vous avez vu, il y a 70% des gens qui sont contre la transsubstantiation, parce que ça, c'est machin de saint Thomas d'Aquin. Alors, il n'y a plus de transsubstantiation. Et ça, pour tout, c'est exactement ce que fait Bergoglio à Rome. Hein. Il est en train de tout casser. Parce que pour lui, il ne veut plus être, il veut plus être le pape, il veut être l'évêque de Rome. Simple évêque de Rome, au même plan, au même droit, au même niveau que les autres évêques. Mais c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez? Donc s'il y a une phrase à comprendre, si vous voulez, je vais terminer avec ça. La franc-maçonnerie va utiliser toute son influence considérable dans le monde pour transformer la vérité en un processus démocratique. La vérité n'existe donc plus par elle-même, la vérité n'existe plus, la vérité est tout simplement un processus exclusivement démocratique qui dépend du nombre. Donc c'est le nombre qui fait la vérité, comme le nombre change tout le temps.
Soit
du
nombre démocratique.
Voilà. Ben oui, oui. Mais comme le nombre change tout le temps, donc la vérité n'existe plus, puisque le nombre changeant, la vérité n'existe plus. Il n'y a plus de vérité, puisque chacun fait sa propre vérité. Et c'est le monde moderne, c'est Vatican II. Vous voyez ? On va faire attention à ça. Bon, on va terminer par une prière, parce que ça fait un peu plus de temps que prévu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Nos saints anges gardiens,
priez
Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors.